possible.
Le domaine
possible.
Du possible.
Le domaine possible.
Le domaine du possible.
Le domaine.
Le domaine du possible.
Le domaine du possible. Le domaine du possible.
Domaine possible.
Possible du domaine le.
Le domaine du possible.
Le domaine
du possible.
Bonjour fidèles amis de Radio Grand Ciel, aujourd'hui j'aimerais vous raconter le périple de Sébastien Solo, parti suite à un fort appel intérieur sur les pas vers Compostelle. Je dis bien vers Compostelle car cette pérégrination minimaliste a abouti à Lisbonne. Avec pour seule consigne de départ, légèreté, simplicité, humilité, Sébastien a couché au pas de course ses pensées au fil de l'eau. Cascade de découvertes, torrent de larmes, traversée aride, le chemin intérieur prend sens au fil des rencontres fortuites et lumineuses. Posté sur Facebook, le cheminement erratique de Sébastien a reçu suffisamment de soutien et de commentaires positifs pour déboucher sur un livre dont le titre « Pourquoi pas » a émergé comme une évidence. J'ai connu Sébastien une année avant son départ sur un autre chemin. J'ai suivi sa quête, sa recherche avide de liberté. J'ai découvert son passé de coureur et d'ingénieur informaticien. Et c'est surtout la saveur qu'il donne aux mots et le sens porté aux signes du passage de la vie qui m'ont touchée chez lui. J'ai apprécié de le suivre au pas de course et dans sa métamorphose au fil des pages de son livre. Et je lui ai proposé de partager son itinéraire dans cette interview. J'espère qu'elle vous rafraîchira autant qu'à moi.
Peut-être penserez-vous que cette prise de conscience jaillit un peu tard sur le chemin. Sincèrement, je ne crois pas. Tout survient à point nommé. Il faut respecter le processus et le rythme de chacun. Il n'est pas si facile de s'affranchir des schémas dans lesquels nous nous enfermons, comme il n'est pas si aisé de casser les systèmes de croyances qui nous ont construits. Je suis scientifique, pas littéraire, pas assez intéressant, pas assez beau, etc. Rien n'est vrai. Nous nous racontons une histoire. Et si bien en plus, qu'à force nous y croyons dur comme fer.
Donc Sébastien Solo, on se rencontre à propos du livre Pourquoi pas. Et avant de parler de ce livre, de cet itinéraire, j'avais envie que tu te présentes avec tes mots.
Ouais, c'est jamais très simple de se présenter, mais ce que je note, c'est que cette question de qui suis-je, c'est une question que je me pose beaucoup dernièrement. C'est une question fondamentale dans ma vie. Je pourrais répondre d'une manière administrative, donc je suis né le 7 mars 77. J'ai eu une existence que je qualifierais d'assez classique pendant des années. J'ai suivi des études qui étaient plutôt réussies, plutôt à l'aise en mathématiques, donc dans notre société, c'est valorisé. Donc, j'ai pas eu de difficultés scolaires. J'ai choisi des études d'ingénieur en informatique. En même temps, je sais pas si je dirais vraiment que j'ai choisi, ça s'est présenté. Voilà, c'était la filière tu es bon en mathématiques. Donc, voilà, c'est une filière où tu auras du succès, tu auras de l'argent. En fait, j'avais l'impression de pas tellement me poser de questions. Je suivais juste un fil devant moi, un chemin, et voilà. Et je faisais un peu ce qu'on me disait. Alors ça m'allait bien. Donc j'ai passé des années comme ça où je disais d'ailleurs hein, que je suis heureux. Enfin, ma vie est vraiment... j'avais une certaine autonomie dans mon travail. Je gagnais bien ma vie. Des cercles d'amis. Des voyages. Donc voilà. Honnêtement, difficile de se plaindre. Hein, surtout dans cette époque actuelle. Donc j'étais heureux. Seulement... Petit à petit, il y a des choses qui sont ouvertes Et il y avait comme un petit malaise diffus, je pense. J'arrivais pas forcément à le qualifier, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, quelque chose qui manquait de sens. Je me suis pas réveillé un matin en me disant ça c'est vraiment n'importe quoi ma vie change tout. Non, c'est vraiment beaucoup progressif que ça. Donc j'ai essayé d'écouter ça petit à petit, de voir ce que je pouvais faire. Ça m'a pris un peu de temps. J'avais une situation qui était quand même très sécurisante et très confortable. Donc prendre la décision un petit peu de balayer tout ça, ça s'est fait graduellement. J'ai dû d'abord avoir des assurances en moi-même en me disant oh, « Ok, si tu arrêtes ça, qu'est-ce que tu fais après ?» Partir comme ça, me lancer dans le vide, c'était pas forcément simple pour moi. Alors j'ai eu quelques idées qui me sont venues, qui m'ont ouvert des pistes et qui m'ont encouragé justement à quitter cette carrière d'ingénieur en informatique. C'est la permaculture notamment. On parle d'inspiration, voilà, de choses qui peuvent nous toucher. Le film Demain, en fait, j'ai vu qu'il y avait, ça m'a ouvert le champ des possibles en fait. Quand j'ai vu toutes les possibilités qu'il y avait de gens qui proposaient des choses, je me suis dit, bah, dans toutes les choses qui existent, tu vas en trouver une quoi. Et ça sera toujours mieux que de travailler dans l'informatique, même si voilà, je condamne pas ça. C'est juste que pour moi, ça avait plus tellement de sens de rester 8 heures par jour derrière un ordinateur. Et donc je me suis dit, voilà, il y a ça, il y a la permaculture, donc j'ai creusé le sujet, et ça m'a donné l'élan de dire, allez, pars sur autre chose et on verra. Le fait est que ça n'a pas été la permaculture qui s'est ouverte pour moi, parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin de voir des choses, enfin de me déplacer. Et la permaculture m'aurait demandé quand même de m'installer quelque part, de construire quelque chose, et c'était pas le moment. C'est pas le moment pour moi, c'était vraiment le moment de voyager. Et donc, j'ai essayé d'ouvrir un espace à la vie pour qu'elle me propose des choses et qu'elle m'amène à vivre des choses différentes. Et donc, j'ai fait un certain nombre d'expériences au moment où j'ai quitté mon travail. J'ai passé notamment 6 mois dans un centre de méditation Vipassana, où j'étais chargé de coordonner les repas. En fait, ce sont des retraites de 10 jours, et les repas sont préparés par des bénévoles en fait qui viennent servir. Mais en fait, il faut servir des repas pour 180 personnes, et les gens ne connaissent rien à la cuisine. Donc, il y a des personnes, des bénévoles long terme comme moi, qui sont là chargés de les accueillir, de les former, de leur expliquer comment faire. Et du coup, c'était ma mission donc pendant ce temps-là. Et donc, ces 6 mois ont été assez intense. Ça m'a permis de voir qu'en fait, j'étais pas fait pour être moine. Même si à un moment donné, je me suis posé la question quand même, parce qu'en fait, il y avait quand même une recherche de spiritualité qui était très forte chez moi, et je me suis demandé si c'était pas peut-être la voie pour moi. Sauf que j'ai réalisé en fait, au cœur de ces 6 mois, que la plus grande partie du travail qui s'est effectué sur moi, là où je sentais vraiment que j'allais toucher des choses, c'était même pas dans les méditations. On méditait 5 heures par jour. Pour moi, c'était assez confortable, mais c'est... Il y avait des gens chez qui ça bouge beaucoup de choses. Moi, c'était vraiment plutôt quelque chose de mode tranquille, relax. En revanche, quand je me retrouvais à être en contact avec les autres, à échanger, ça me renvoyait des choses sur moi. Et là, je voyais bien que ça travaillait. Donc, il y a eu un moment donné où, après cette expérience, j'ai senti que c'était le moment aussi de reprendre le chemin et de me remettre en mouvement. Et donc, après, c'est exactement ce que j'ai fait, quoi.
Il y a quelque chose d'important aussi dans ton passé, c'est que tu es sportif. Et donc, l'itinérance, la course. Et il y avait aussi une expérience d'un moment à Compostelle, enfin, en tout cas, à Conques, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Compostelle, c'est... Si on me demande, en fait, d'où vient Compostelle, je serais, en fait, incapable de le dire. J'ai l'impression que ça a toujours été là. Je sais pas si c'est dans l'inconscient collectif ou quoi, mais le pèlerinage, Compostelle, j'avais souvent ça en tête, en me disant, même quand j'étais plus jeune, ah oui, Compostelle, je le ferais peut-être, etc. Forcément, dans la vie que j'avais, où il n'y avait quasiment pas d'espace pour ça, c'était pas une possibilité. Mais en fait, j'ai eu la chance de trouver, par l'intermédiaire de Claude Faure, qui organise en fait des semaines sur le chemin de Compostelle, mais justement en courant sur le chemin de Compostelle. Donc moi, à l'époque, qui faisais la course à pied, ça m'a vraiment, c'était vraiment comme ça que je voulais le vivre. On partait en fait pendant 5 jours en faisant le Puy-en-Velay-Conques, un groupe à peu près 20 personnes, et donc en mode léger. Et Claude se charge en fait sur le chemin de préparer des ravitaillements 2 fois par jour. Et le soir, on se retrouve tous au gîte et on partage le repas, la soirée. Et donc c'était pour moi l'occasion, quand j'ai découvert ça, en me disant mais c'est magnifique, je vais pouvoir aller sur le chemin de Compostelle et le vivre tel que moi j'aime le vivre en courant, et on verra ce que ça donne. Et c'est là où j'ai vu, pour la première fois vraiment j'ai goûté ça, cette puissance du chemin. C'était en 2014, et voilà, elle arrivait à Conques que je ne connaissais pas, ça reste un moment, un souvenir. Voilà, là j'en parle et je me revois encore arriver à Conques, l'émotion qu'il y a eu arriver à Conques. Et je garde un souvenir de m'être relevé d'ailleurs, on était dans l'auberge municipale, et en général quand je suis au lit, mais là ce soir-là, à 11h, j'ai eu envie de me relever, et je suis sorti, il n'y avait plus personne dans les rues de Conques, c'était vraiment un moment assez incroyable, c'était hors du temps, c'était vraiment des moines débarqués ou je ne sais pas, enfin j'avais l'impression d'être dans un autre temps, une autre époque, et j'ai vraiment ressenti quelque chose de fort. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu la certitude que à un moment ou un autre, je reprendrai cette marque-là que je voyais du chemin de Compostelle et que je reprendrai le fil plus tard. Là, j'avais que 5 jours, mais c'était là. Cette petite graine, en fait, s'est posée là et ça a pris un peu de temps. Parce qu'en fait, même quand j'ai quitté mon travail en 2016, je ne suis pas parti tout de suite sur Compostelle. J'ai fait justement ce temps sans de méditation. Puis j'avais arrêté un petit peu l'activité sportive. Et puis ben, en 2018, en fait, c'est revenu plus fort. Je crois qu'à un moment donné, c'est juste incontrôlable. J'avais le temps, j'avais retrouvé une bonne condition physique. Je me suis dit, là, t'as plus d'excuses, quoi.
À l'aller, d'est en ouest, le soleil dans le dos, mes mollets noirs vous en parleraient mieux que moi. Le pèlerin marche dans son ombre. Il a des éléments à appréhender, à comprendre et à affronter. C'est l'œuvre au noir. Arrivé à Fistera, il accomplit des actes symbolisant la purification, la mort et la résurrection. Il se purifie dans la mer, brûle ses vêtements et admire le soleil se coucher. C'est l'œuvre au blanc, phase d'épurement par l'eau et par l'air. Il ramasse une coquille, preuve de son passage. Pas avant comme le font la majorité des pèlerins. Bien que cela soit un signe évident de ralliement. Et puis, il s'en retourne chez lui, d'ouest en est, face au soleil, en pleine lumière. Une fois rentré, il lui appartient de transmuter tout ceci en quelque chose de précieux, qui est de la valeur. C'est l'œuvre au rouge. L'ultime étape, la plus fantastique, celle de la transformation du mercure en argent puis en or alchimique. Œuvre rouge comme la couleur de l'or au soleil. La particularité, c'est le style, je trouve, parce que léger, en courant, donc c'est quand même assez singulier.
Oui, c'est étonnant parce que je pense que je ne l'aurais pas fait en 2018, j'aurais peut-être fait autrement. C'est-à-dire que j'ai eu une période justement où, quand j'étais dans le centre de méditation, où j'étais vraiment dans une période peut-être plus profonde, entre guillemets, où j'étais vraiment monté en niveau de spiritualité, où j'avais commencé à caractériser des choses comme quoi courir c'était peut-être pas spirituel, je commençais à mettre des choses comme ça dans ma tête, fallait plutôt marcher lentement, intérioriser, sauf que je me suis rendu compte que j'étais pas heureux, c'est-à-dire que j'étais dans un centre de méditation et j'ai eu des retours de gens, des proches à moi qui disaient « moi j'ai bien, mais moi tout va bien, je suis en paix, je médite, tout va bien », mais ce qu'ils m'envoyaient c'est que j'étais pas plus heureux quoi. Pour quelqu'un qui était normalement là. Et je me suis rendu compte que j'étais pas heureux parce qu'en fait, j'étais plus en accord avec qui j'étais. Moi, j'aime courir. Il y a certaines choses que j'aime faire. Et du coup, je l'avais mis ça de côté. Et donc, petit à petit, en fait, j'ai repris le fil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pendant que j'étais au centre, j'ai commencé à recourir un petit peu, j'ai vu qu'il y a des choses qui s'allégeaient parce qu'en fait, je lâchais des injonctions que je m'étais imposées, en fait. Et donc du coup, je me suis dit, à partir du moment où je décide de faire Compostelle, il faut que je le fasse comme je suis. Je ne partais pas du tout forcément à l'idée de courir, hein, mais je m'étais dit, je vais partir léger. Comme ça, si vraiment, sur le chemin, ça vient et que c'est ce que j'ai envie de vivre, j'aurai la possibilité de le faire. J'avais une expérience à ce niveau-là, un petit peu de gérer du matériel un peu léger. Et puis je voulais me mettre... m'apporter quelque chose que je fais pas souvent, c'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir contrôler beaucoup les choses et à pouvoir porter pas mal, à penser à toutes les situations possibles. Et je me suis dit, si c'est une occasion sur le chemin de partir avec, pas avec le minimum, quoi. Tu vas être sur des chemins en France, tu manqueras de rien. Pas avec le minimum, mais vois l'expérience que ça va faire de partir avec une seule tenue de rechange, enfin le minimum vital. Et vois si c'est vraiment un problème. Donc, au moment de faire le sac, en fait, c'était le plus compliqué, c'était de faire le sac. Parce qu'au début, il y avait beaucoup de choses. Et je me disais, non, ça, t'en as vraiment pas besoin, ça, tu verras plus tard, etc. Et donc, je me suis fait, on va dire, entre guillemets, je me suis fait violence au moment de faire le sac. Et du coup, j'étais content, j'avais un sac qui faisait 3 kilos. Après, voilà, on rajoute un peu d'autres choses comme ça. Mais du coup, voilà, je partais avec ce petit sac en me disant, allez, maintenant, j'ai ça. Et puis, une fois que le sac est fait, de toute façon, après, la messe est dite, comme on dit.
C'est un objet important, le sac, il a même eu un nom, puisqu'il t'a suivi tout le long.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, il a pris vie un peu au cours du chemin. C'est-à-dire que, voilà, au début, c'était juste un objet, et puis en fait, le fait de l'avoir tout le temps avec moi, et puis, et voilà, j'ai eu l'impression qu'il avait une âme, et que cette légèreté, tous les matins, je le reprenais avec grand plaisir. Il y a des objets des fois comme ça qui ont un petit peu plus et puis ça m'amusait surtout de le vivre comme ça et de voir les réactions qu'il pouvait susciter aussi vis-à-vis des gens. Ça c'était drôle. J'ai aussi ça m'a aussi permis justement d'assumer ma différence parce que voilà, sur le chemin, c'est un peu comme partout, j'ai noté qu'il y avait justement encore des injonctions, des gens qui réagissaient très bien et puis d'autres non, pour qui le chemin faut marcher, faut avoir un gros sac à dos, faut faire ci, faut faire ça. Et moi, j'ai décidé à un moment donné d'arriver avec une liberté. Moi, vraiment, ce que j'ai essayé de voir, c'est que pour moi, la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Mmh. Et à chacun de venir avec ce qu'il est. Et de toute façon, quoi qu'il arrive sur le chemin, j'ai le sentiment qu'on vit ce qu'on a à vivre, peu importe la façon dont on le fait, etc. On sera amené à vivre des choses de toute façon. Et après, c'est à chacun de poser cette intention quand il part. Voilà, avec quelque chose peut-être d'important aussi à dire, c'est que je suis pas parti en fait avec l'intention forcément d'aller à Compostelle. Et je le disais d'ailleurs aux gens au départ. Moi, je disais, je pars vers Compostelle et je m'autorisais la possibilité peut-être de revenir au bout d'une semaine ou deux si j'en avais marre ou si ça correspondait pas à ce que je voulais, choses comme ça. Je voulais pas, voilà, je pars. Je voulais goûter à l'itinérance. Et voir un petit peu ce que ça donnerait. Et j'avais envie justement aussi de... Les deux choses que j'avais, c'était goûter à ça, être en nature, et puis profiter pour faire des rencontres. Je savais qu'il y aurait forcément des rencontres marquantes sur le chemin.
Sébastien Solo, armé d'un sac à dos de 3 kilos, voyage léger et vite. Parti du Puy-en-Velay en direction de Compostelle, il partage son itinérance et comment l'écriture a pris sa place dans ce chemin.
Un décalage profond avec mes camarades de pérégrination. Ils marchent, je cours. Pas en permanence, évidemment, mais tout de même. Ils sont chargés, je suis léger. Et pour autant, je me sens pleinement en accord avec qui je suis. Pour moi, il n'y a pas de règle. Le bien et le mal n'existent pas. C'est purement une question de point de vue. Je comprends que ça puisse heurter, voire choquer certains. Il ne m'appartient pas de démanteler ce système de croyance chez les autres. La seule chose qui m'anime dans mes prises de décision, c'est la question, est-ce que c'est juste ou non? Et le seul qui puisse répondre à ça, c'est mon cœur. Écoute ton cœur, cela suffit. Dans le livre, ce qu'on retrouve aussi, c'est la gratitude que tu peux avoir d'avoir cette légèreté, d'avoir cette capacité en fait, de parcourir beaucoup de kilomètres sans que ça te coûte en fait, en énergie. C'est quand même une chance. Ça t'a permis de faire tout le parcours en peu de temps, finalement.
Oui, c'est-à-dire que ça m'a permis... Alors, au final, je pense que j'ai peut-être fait plus autant que certains qui ont été jusqu'à Compostelle, mais comme j'ai poursuivi après, voilà, ça m'a permis de partir quand même 2 mois. Mais par contre, oui, c'était un cadeau extraordinaire. C'est-à-dire que tous les jours, je me relevais le matin, je me sentais en bonne forme physique, j'avais plaisir à repartir sur le chemin. Comme tout le monde, j'ai au début des petits ajustements physiques à gérer, notamment au niveau du genou, mais très très peu. Et au final, vu le nombre de kilomètres que je faisais, mais la majorité du temps, je me sentais vraiment très très bien physiquement. Ce qui me permettait vraiment, pour le coup, d'être vraiment ouvert à l'autre et d'être ouvert à ce qui se passait autour de moi. Parce qu'en fait, c'est normal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on souffre, si le sac à dos est trop lourd ou si on a des problèmes physiques, eh ben, on a tendance à être ramené vers ça. Et du coup, peut-être de passer à côté d'autres choses. Moi, j'étais dégagé de cette contrainte-là, et donc j'avais vraiment beaucoup de joie à voir un petit peu ce qui se passait autour de moi. Et j'ai toujours pris soin aussi de me ménager, c'est-à-dire que j'ai cette dualité en moi, c'est-à-dire que j'aime beaucoup être en mouvement et avancer, mais alors j'aime aussi beaucoup avoir des moments donnés où je suis posé, je ne fais rien. Donc j'essaie de m'organiser en fait pour avancer le matin de bonne heure, j'essaie d'avancer jusqu'au déjeuner, donc ça pouvait varier de midi à 14h, pour avoir le temps à l'arrivée de me poser, de me restaurer, de faire une petite lessive, et puis de voir un petit peu ce qui se passe là où j'étais, faire le tour, rencontrer les gens. Et c'est aussi ce qui me permettait le lendemain de repartir joyeusement. Parce que je savais très bien que si je faisais des journées entières, arriver à 6-7h le soir, j'aurais saturé assez vite, je pense, et j'aurais pas pu vivre aussi longtemps. Là, j'avais cet équilibre, voilà.
Permettez-moi de débuter cette journée par une délicieuse expression anglaise. It's a journey. Que l'on pourrait traduire sommairement par « c'est un cheminement », au risque toutefois de ne pas en restituer toute la saveur ni la sonorité éclatante. Car oui, ce chemin, it's a fucking journey. Une incroyable traversée en soi-même dont il est impossible de s'échapper et dont on ne ressort pas indemne. Récemment, une amie m'a judicieusement soumis la remarque suivante. Partagez jour après jour cette histoire avec vous a des vertus thérapeutiques indéniables. Au plus fort de la tempête, quand je me suis vue sombrer, vous m'avez permis d'exprimer au grand jour ce qui était dans l'ombre. Car c'est bien de ça dont il s'agit, vous vous rappelez? À l'aller, on navigue dans son ombre et il nous est demandé de l'apprivoiser pour la surmonter. Votre soutien indéfectible, surprenant, étonnant, touchant, émouvant, hilarant, réconfortant et si souvent fort à propos, m'aura permis de traverser l'obscurité comme autant de petites lumières éclairant la voie. Quelle place a pris l'écriture pendant ce chemin? Parce qu'à un moment donné, là, elle t'a suivi?
Oui, alors ça, c'était un processus très mystérieux, justement. J'ai souvent des idées premières qui me viennent comme ça, qui sont que la vie envoie valdinguer. Là, j'en avais une très forte, c'était je vais partir faire Compostelle et puis je vais me mettre dans ma bulle. Et à la rigueur, je vais communiquer à personne, même les proches. Je serai coupé de tout et puis j'avancerai avec moi-même sur le chemin. Et voilà. Et au départ du Puy-en-Velay, j'ai juste posté une photo sur Facebook avec juste marqué kilomètre zéro. C'était juste une photo de la cathédrale, juste pour signifier aux gens que je partais. En me disant, voilà, c'est le point et on se retrouvera dans 2 mois. Et puis, je sais pas, 2-3 jours après, j'ai dû poster 2-3 lignes. En plus, comme j'avais un petit souci au genou, j'ai sollicité un petit peu des conseils. Donc voilà, je voyais qu'il y avait des petits retours de gens qui me disaient, ah oui, c'est chouette, t'es parti. Et puis en fait, naturellement, après, j'ai dû poster quelques phrases de plus le jour d'après. J'ai vu des choses qui étaient belles, j'ai pris des photos que j'ai eu envie de partager. Et petit à petit, je voyais qu'il y avait des gens derrière qui étaient intéressés par ça, par suivre ce qui se passait. Parce qu'en fait, finalement, c'est peu commun de pouvoir partir 2 mois comme ça. Et que les gens qui étaient un peu dans leur vie active, etc., c'était peut-être une respiration dans leur vie. Et petit à petit, il y a un processus qui s'est mis en place, en fait, que je n'avais pas décidé, et qui a fait que j'ai commencé à écrire en temps réel, en fait, pour moi. C'est-à-dire que j'écrivais les choses qui me venaient, je les mettais sur mon téléphone. Et le soir, en fait, je publiais, je remettais juste en forme, mais en fait, je gardais la trame de ce que j'avais vu et de ce qui me descendait. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ça me descendait des fois. Il y avait des phrases qui me venaient comme ça ou des inspirations à des moments donnés. Et c'est un processus que j'ai trouvé très réjouissant parce qu'en fait, il s'est trouvé des moments où j'ai écrit des choses et elles se sont trouvées validées quelques temps après. Je parlais de quelqu'un et du coup, la personne apparaissait. Enfin, je pouvais voir la magie des fois se faire. Et le fait d'écrire en temps réel, ça m'autorisait à pouvoir vraiment le publier sous cette forme-là. Et c'est pas quelque chose que j'aurais redit après à la fin de la journée. Ou là, j'étais vraiment sur l'émotion du moment ou ce qui me venait à ce moment-là. Et ça s'est mis en place de plus en plus. Et ce qui fait qu'à la fin, ça me venait vraiment comme ça. Et je pense que ça se retrouve peut-être dans le livre. Plus ça va, plus il y a de la fluidité dans l'écriture. Il y a quelque chose qui apparaît. Le processus s'est fait. Et surtout, moi, ça m'a permis de, en fait, de voir des choses que je crois que j'aurais pas vues. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés, quand je relisais le soir, je notais des choses. J'ai l'impression que ça sortait des choses de moi que je voyais, j'aurais pas vues. Et j'étais des fois surpris de ce qui pouvait tomber ou de ce que je pouvais ressentir. Et ça, c'était assez touchant comme processus de voir matérialiser des choses. Et quand il y a eu des moments même un petit peu plus... qui m'ont peut-être bougé plus. Là, ça a carrément eu des vertus thérapeutiques. J'ai le sentiment d'avoir vraiment pu sortir des choses que j'aurais jamais pu sortir autrement.
La musique a joué aussi un rôle important pendant ce processus. Comment elle est venue tu mettais un casque parfois, tu t'enfermais dans la musique, comment ça se passait?
Ouais, alors là c'était pareil, c'est un processus. La musique c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours, je dirais. Je suis vraiment touché par l'émotion qui peut dégager de la musique. J'aime beaucoup les mots aussi, donc forcément, quand il y a de la musique, quand il y a des paroles qui vont bien, ça peut vraiment déclencher des choses chez moi. J'ai l'impression que ça ouvre des choses, ça fait remonter des sentiments, des émotions. Alors parfois j'avais pas de musique, mais il y a de la musique qui me venait naturellement en tête, comme quand je dis des fois comme ça descend, donc je laissais ça aller. Et puis parfois il y a des moments donnés où vraiment j'avais une playlist assez large, je sais pas, 400, 500 chansons, et je laissais un petit peu le hasard faire les choses et voir quel type de musique pouvait se présenter. J'ai appris au fur et à mesure du chemin en fait à vraiment laisser venir tout ce qui devait venir, c'est-à-dire que je décidais pas, par exemple, de marcher ou de courir. Ça venait le matin, je partais des fois à la marche, puis à un moment donné, je voulais courir. La musique, c'est pareil. Des fois, je sentais que j'avais peut-être envie plus d'être dans le silence, et puis éventuellement discuter avec les gens. Et puis des fois, je sentais que j'avais besoin d'écouter. Au début, j'étais presque un peu freiné, pareil, en me disant « Oui, écoute de la musique sur le chemin de Compostelle, est-ce que ça se fait ?» Bon, voilà, j'ai eu ça qui est venu. Puis à un moment donné, je dis « Ben non, t'as envie d'écouter de la musique, ça dégage des choses chez toi, ça fait remonter des choses. Et puis t'es heureux surtout. Enfin, surtout, moi, c'est ça. C'est que quand j'écoute de la musique, ça me met dans un état de joie assez incroyable. Et donc voilà, il y a des moments donnés, j'avais besoin d'écouter de la musique et de me laisser porter par ça. Et je plongeais vraiment du coup dans ce qui se passait en moi. Donc oui, ça m'a vraiment accompagné tout du long. Ouais. Et des fois, des moments très très forts. Ouais.
Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. heaven. Not the sunshine. And everybody's gotta learn sometime.
Le voyage du Puy-en-Velay à Lisbonne, en passant par Compostelle, démarre pour Sébastien au rythme des rencontres et sur le fil des émotions du marcheur. Le processus intérieur peut alors commencer. Sébastien déroule cette traversée intime qui, de surprise en synchronicité, débouche sur une forme de lâcher prise et de confiance dans la vie.
C'est assez étonnant de voir à quel point les synchronicités ont joué dans ce parcours.
Oui, elles ont joué et elles sont venues à des moments en plus. Je peux en raconter comme une, c'est la plus marquante et c'est vraiment celle qui a déclenché quelque chose sur le chemin. Quand je suis parti de la cathédrale du Puy-en-Velay, je suis arrivé juste avant la fin de la messe des pèlerins et j'ai vu qu'on pouvait prendre des intentions de prière. Alors, j'étais pas trop familier avec le concept, mais c'est des petits papiers que les gens ont mis une prière dessus et on choisit un mot au hasard et voilà. Alors, moi, je savais pas trop quoi en faire, j'en ai pris un comme les autres et je l'ai mis dans ma crédentiale qui est un morceau, un morceau papier, c'est plus que ça d'ailleurs, sur lequel on appose les tampons en fait de tous les gîtes dans lesquels on passe et qui indique qu'en fait on a fait le chemin. Et donc, j'ai mis cette intention de prière dans ma crédentiale. En pensant peut-être qu'il fallait que j'emmène à Compostelle et que je la dépose quelque part là-bas, et voilà. Donc je ne me pose pas plus de questions que ça. Il se trouve qu'en repassant au gîte avant de partir, j'oublie ma crédentiale au gîte, au Puy-en-Velay, et je me rends compte le premier soir en arrivant à l'hébergement où on me la demande pour tamponner, et je me rends compte que j'ai déjà perdu ça. Donc je me dis, ça commence bien. j'ai contacté donc la personne du gîte, et j'avais déjà dès le premier jour un petit problème de genou, donc je ne savais pas jusqu'où je pourrais aller. Mais je voulais au moins aller jusqu'à Conques, parce que voilà, Conques, pour ce que j'avais vécu la première fois, je me suis dit, allez, quoi qu'il arrive, tu iras bien jusque-là. Et donc, je demandais à Sébastien, qui tenait le gîte, de me l'envoyer par courrier à la crédentiale là-bas. Donc voilà, ma première semaine s'est passée avec des doutes, voilà, physiques, est-ce que j'avais vraiment envie, etc. Et j'arrive à Conques, déjà, je suis très heureux ce jour-là d'arriver à Conques, ça me refaisait une joie énorme. C'est un temps magnifique, il fait beau, je suis heureux d'être là. Et je suis dehors, installé une table avec la personne du gîte, et elle me remet donc un courrier. Et voilà, et donc je récupère ma crédentiale, donc je suis heureux, en plus j'ai super ma crédentiale, maintenant je vais pouvoir remettre des tampons dessus et tout. Et j'avais oublié l'intention de prière en fait, et le papier tombe de l'intention de prière, de la crédentiale, je lis machinalement, et c'est écrit dessus « Pour notre fils Sébastien, qu'il trouve sa voie et soit heureux de vivre ». Et là, il s'est passé quelque chose, mais alors vraiment, c'est très difficile... Et je ressens encore cette émotion à ce moment-là, parce qu'en fait, c'était comme si à ce moment-là, on m'expliquait que, enfin, il y avait quelque chose qui me disait, mais oui, t'es bien là pour une raison, et t'inquiète pas, tout va bien se passer, quoi. D'abord, j'ai pas compris, parce que quand j'ai vu Sébastien, j'ai dit, oui, mais Sébastien, qui m'a écrit ça ? Alors, ma mère était avec moi au départ, donc je lui avais peut-être laissé ça pour moi, mais en fait, ça avait pas de sens. Et il m'a fallu un moment donné avant de percuter que c'était cette intention de prière. Et la personne du gîte d'ailleurs me regardait avec un regard un petit peu étonné parce que j'étais vraiment dans un état pendant quelques secondes où j'étais plus là en fait, et je me suis juste laissé envahir par ce sentiment, et donc ce mot là voilà, à ce moment là déjà c'était la première chose qui a fait qu'après les choses étaient beaucoup plus faciles parce que je me suis senti porté. À partir de là c'était incroyable, je suis rentré vraiment dans le chemin et j'ai pu vraiment me laisser guider pour tout le reste du chemin.
En parlant de synchronicité, il y a eu des personnes aussi qui sont réapparues à plusieurs reprises. Je pense à Nao. Quel rôle ça a joué pour toi ?
Alors Nao, c'est un Japonais donc, qui est venu faire le chemin. Et Nao est parti le même jour que moi. Donc on ne s'est pas vu le jour du départ. On s'en est rendu compte après. Il est parti le 17 mai. Et à Kong, justement, on s'était déjà retrouvé. Ça faisait 2-3 jours, en fait. Je le voyais une fois par jour. Nao, du coup, on n'avait pas du tout le même mode de déplacement, mais on faisait à peu près les mêmes étapes parce qu'en fait, Nao, il marchait. Mais par contre, Nao, il marchait beaucoup, donc il faisait des étapes à peu près comme moi, 30-40 km. Mais par contre, lui pouvait arriver à 6h le soir ou 7h le soir. Mais toujours avec un sourire incroyable, une énergie dingue. il a eu des problèmes de tendinite au tendon d'Achille, donc il souffrait beaucoup, je voyais qu'il boitait, mais à chaque fois que je le voyais, il avait un sourire incroyable sur le visage. Et donc je savais qu'à peu près une fois par jour, je le retrouvais, parce qu'il y a un moment donné où je revenais sur lui. Donc première fois que je l'ai vu, voilà, j'étais content, puis le lendemain on se revoit, donc ça fait plaisir, juste quelques mots comme ça échangés. Et puis après ça devient un petit peu un rituel, notamment à Conques, voilà, j'ai souvenir de le revoir, pareil, je suis devant la boulangerie, je le vois qui sort, donc on déjeune ensemble. Et après, au fil des moments, on s'est croisés, recroisés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est arrivé un jour après moi, en fait, à Fistera. Et c'est encore une synchronicité de comment je l'ai retrouvé. Donc celle-là, j'ai envie de laisser la surprise pour ceux qui auront l'envie peut-être de lire le livre. Mais c'était vraiment incroyable de se voir comme ça, aller venir. Et ouais, j'ai eu vraiment énormément de plaisir à cheminer à ses côtés.
Tu parlais d'une deuxième personne?
Oui, il y a eu une deuxième personne, c'était Anna, une Écossaise que j'ai rencontrée à Tria Castella, donc un peu avant d'arriver à Compostelle. Une rencontre assez incroyable, parce que cette rencontre a vraiment déclenché, a fait peut-être bouger des choses chez moi, ça, difficile à définir, mais je pense que déjà ça m'a permis de voir, pendant de nombreuses années en fait, pour me protéger, j'avais mis un blindage autour de mon cœur, et je me préservais, voilà, des relations, dès que je rentrais un peu trop dans l'intime, il y avait vraiment quelque chose, alors c'était inconscient bien sûr, j'en avais pas forcément cette vision, mais je me protégeais, voilà, dès que ça touchait trop, je me mettais un peu en retrait, et au fur et à mesure du chemin, j'ai senti que j'ai petit à petit libéré des choses, j'ai vraiment laissé tomber pas mal de ces barrières, et cette rencontre m'a vraiment permis de voir que oui, en effet, ça avait beaucoup bougé, et ça m'a aussi entraîné dans des parties un petit peu, ce qu'on appelle un petit peu l'ombre, parce qu'en fait le chemin c'est aussi ça, c'est affronter ses parts d'ombre, et j'ai eu du coup un moment assez intense de ce côté-là en arrivant sur Compostelle, mais elle m'a permis justement de voir tout ça, et c'était un cadeau, et de la même manière Anna, je l'ai revue après, mais alors là pareil, c'est le moment marquant pour moi du chemin, parce que c'était complètement improbable de la revoir là où je l'ai revue. Et à ce moment-là, c'est pareil, c'est comme à Conques, j'ai senti quelque chose de très très fort, parce que c'était quelque chose que j'avais demandé à ce moment-là, difficile de rentrer dans le détail là, mais je voulais vraiment la revoir, et on s'est revus, voilà, à un moment donné où j'étais avec Nao en plus, j'avais Nao à mes côtés, Nao arrivait, comme j'étais arrivé un jour avant lui à Fistera, donc le kilomètre zéro, là où il y a la mer, je l'accompagnais à mon tour pour qu'il fasse les derniers mètres, et j'avais Nao qui était avec moi et Anna qui s'est présentée, donc ça a été... Ouais, c'était un instant d'une intensité complètement dingue. Et ces deux-là, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont disparu assez mystérieusement de ma vie. C'est-à-dire que j'ai essayé de les revoir. Nao, j'ai pas réussi à le revoir après. On était au kilomètre zéro et j'avais les deux avec moi. Et les deux ont disparu. Et j'ai jamais pu... Alors, Nao, on est resté un peu en contact. Mais physiquement, j'ai pas pu le revoir. Anna, pareil. Alors après, il y a des moments donnés, je laisse la magie du chemin être ce qu'elle est. Et pas chercher forcément à comprendre, mais c'était... ouais, c'est des... On m'avait dit avant de partir, aucune rencontre est anodine sur le chemin. Et en effet, je peux constater que les gens que j'ai rencontrés, particulièrement ces deux-là, mais il y en a eu beaucoup d'autres, ça a été vraiment des rencontres assez touchantes, émouvantes. Je pense pas que j'imaginais à quel point ça pouvait l'être. Donc, ouais, c'était quelque chose d'assez incroyable.
Aussi dans le livre qu'à un moment donné c'est le lâcher prise qui arrive.
Oui tout à fait, et ça demande du temps, alors ça demande un temps différent pour chacun en fonction des bagages avec lesquels on vient. Donc, comme je disais, j'ai longtemps essayé de me protéger, donc forcément qui dit protection dit contrôle, voilà, d'essayer de contrôler les situations pour m'assurer que je serai dans des situations où je serai en sécurité, et donc ça m'a pris un peu de temps pour lâcher le contrôle, mais j'ai noté par contre, dès que je l'ai fait, notamment par exemple sur le chemin français, je réservais les hébergements, parce qu'il y en avait peut-être moins qu'en Espagne, et puis que c'était plus... je préfère avoir cette tranquillité d'esprit le matin de partir, et de savoir que le soir, voilà, il y avait un hébergement. Et le seul moment où je l'ai pas fait sur le chemin, pour, voilà, pour des raisons que j'explique dans le livre, je me suis retrouvé à Lectoure chez Isabelle, et ça a été une rencontre incroyable. C'est-à-dire que le premier moment où je lâche vraiment le contrôle en me disant « bah non, aujourd'hui je fais autrement et on voit ce qui se présente », et c'est quelqu'un avec qui je suis encore en contact et qui a été vraiment une rencontre marquante. Alors, à ce moment-là, j'ai essayé qu'une fois passé en Espagne, en fait, j'arrêterai de réserver et je verrai au fur et à mesure comment ça se passerait. Ce qui était beaucoup plus joyeux, puisqu'en fait, je partais le matin et je pouvais décider de m'arrêter exactement quand je voulais, si le village me plaisait, si j'en avais un petit peu marre, ou si voilà. Ben, je m'arrêtais là où j'étais sans me préoccuper de l'heure qu'il était ou du nombre de kilomètres que j'avais fait. Et donc, ça, déjà, ça m'a permis à ce moment-là de commencer à lâcher le contrôle. Mais voilà, je pense qu'on est invité. Enfin, moi, j'ai senti ça, d'être invité un petit peu à mon Dieu, à laisser faire. Et comme, en plus, quand je faisais ça, la vie m'apportait des moments vraiment incroyables, des rencontres, réjouissantes. Bah, après, c'est beaucoup plus facile de faire confiance et de jouer le jeu en disant, ouais, c'est quand même plus réjouissant.
Au sommet, une phrase inspirante me heurte de plein fouet. The boat is safer anchored at the port, but that's not the aim of the boat. Ce qui donne, peu ou prou, dans la langue de Molière ou de Patrick Sébastien, le bateau est plus en sécurité amarré au port, mais ce n'est pas sa finalité. Ça résonne profondément, ardemment en moi. J'ai joué la carte de la sécurité pendant des lustres. Penser sa vie au lieu de la vivre, c'est tellement plus rassurant. Mais c'est tellement plus chiant. Le chemin s'annonce long, mais je sens que je progresse. C'est au bout de 50 jours que tu arrives à Compostelle ?
Non, c'est quand j'arrive à Fisterra. Fisterra, c'était vraiment pour moi à la rigueur, presque c'était plus le marqueur à un moment donné quand je visais. Compostelle, évidemment, ça a un sens. Mais moi, c'était vraiment la mer, c'est-à-dire que le Cap Finistère, c'est 100 km après Compostelle, donc c'est la fin de la Terre. Et voir la mer, pour moi, ça avait plus de sens. Ça faisait plus de sens. Ça n'empêche que quand je suis arrivé à Compostelle, j'ai vécu des belles choses aussi, mais c'est incomparable comparé à ce que j'ai vécu quand je me suis retrouvé vraiment à la borne du kilomètre zéro qui marque la fin vraiment du chemin. Là, pareil, j'étais traversé par une émotion. Ok, je m'attendais pas parce qu'en fait j'en avais vécu déjà quelques-unes avant et je pensais vraiment que j'étais arrivé entre guillemets, voilà, que j'étais au bout et que c'était c'était la fin, c'était les vacances et qu'il suffisait de terminer. Donc je sais d'autant plus que cette émotion était véritable parce que je l'ai vraiment pas programmée. Je me suis pas dit oui, tu verras quand tu vas arriver, ça va être très émouvant. Non, et puis de toute façon c'était tellement fort que celle-là m'a complètement submergé à me mettre carrément par terre. Donc là, c'était un endroit, voilà. Fisterra, je suis resté dire quelques jours parce qu'il y avait vraiment une énergie assez incroyable et que j'avais envie de goûter aussi un temps un peu de repos. Et puis après, j'avais forcément du temps, puisque je me décidais un peu du temps dont je disposais. J'ai décidé en fait de prolonger après, puisque j'avais toujours voulu aller au Portugal. Et en fait, une fois que j'ai vu que l'itinérance était vraiment quelque chose qui me plaisait, que j'aimais avancer à ce rythme-là, je me suis dit, puisque tu es tout proche du Portugal, autant en profiter et termine ton périple là-bas. Et donc ça, c'était l'occasion aussi de peut-être de basculer sur autre chose. En général, les pèlerins, dans le temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient jusqu'à Compostelle, ils partaient de chez eux, ils allaient à Compostelle, ils accomplissaient un certain nombre de rites là-bas, ils récupéraient une coquille Saint-Jacques, et ils revenaient chez eux. Et on appelait ça, c'était le chemin de lumière, au retour, ils revenaient vers le soleil. Et du coup, moi, le Portugal, c'était l'occasion peut-être d'avoir une transition entre tout ce que j'avais vécu, et avant de repartir peut-être dans ma vie, mon chemin de lumière à moi, donc ça me plaisait bien d'emmener mes pas en fait vers le Portugal.
Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que le chemin portugais, tu le fais à rebours, dans un certain sens, tu es obligé de regarder les panneaux dans l'autre sens, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est normal, en fait, tous les chemins vont vers Compostelle, enfin dans le sens, avec les balisages et les pèlerins. Donc du coup, je me suis retrouvé à contresens. Donc à croiser beaucoup de monde, pour le coup, puisqu'il y avait beaucoup de monde qui venait du Portugal. Et puis du coup, être un petit peu plus vigilant sur le balisage, qui existait un petit peu, parce qu'il y avait un balisage en direction de Fatima, mais alors moins, ce qui fait que j'avais plutôt tendance à regarder à l'envers si les flèches étaient dans le bon sens. Donc ça m'a valu quelques petits moments aussi où je me suis un peu peut-être un peu perdu, mais là, je faisais aussi jouer la confiance. C'était aussi l'occasion de garder confiance et de savoir que je trouverais toujours mon chemin. Voilà.
Tu t'es trouvé affublé d'un nouveau compagnon, Bernardo.
C'est ça, oui. C'est-à-dire que là, pour le coup, en partant au-dessus, je me suis dit, ça serait bien d'avoir un guide quand même. Ouais. Et donc, je me suis trouvé un guide, voilà. Bernardo, comme il était sourd et muet, je trouve que c'était pas mal pour lui comme nom. Et il m'a bien guidé voilà, sur le chemin portugais. J'ai eu quelques informations, mais lui m'en a donné. Donc, voilà, après, comme ça, on était trois. On est un petit peu plus que ça dans ma tête, mais là, on était trois.
Continuons le cheminement de Sébastien Solo. À peine arrivé au Portugal, d'autres aventures l'attendent qui déboucheront sur le livre « Pourquoi pas ?» et une nouvelle voie professionnelle.
Je rends grâce à Stéphanie Baudet, grimpeuse émérite, grand écrivain et surtout belle âme, d'avoir écrit « Le meilleur don qu'on puisse se faire à soi-même, c'est de respecter sa nature. Savoir qui l'on est, puis l'être pleinement, à chaque moment, et refuser d'être autre chose. Vivez votre vie. N'attendez pas un instant. Trouvez ce qui vous fait vibrer, vous met en joie, vous rend heureux, et ne le lâchez plus. Jamais. Ne laissez personne vous affirmer « c'est impossible » et que vos rêves sont inaccessibles. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Osez la liberté pour être heureux. Le bonheur est à ce prix, mes amis. Et puisqu'il faut bien se quitter à un moment donné, quoi de mieux que de confier à un vrai aventurier le soin du mot de la fin. Saint-Exupéry, puisque c'est de lui dont il s'agit, et qui, en une seule phrase, a su résumer ce que j'ai laborieusement tenté d'exprimer en 70 jours, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Est venue l'idée du livre?
Donc j'ai fait ces chroniques au fur et à mesure, donc c'est en partie pour partager, puis alors pour moi j'avais quand même plaisir à faire ça, et plus ça allait en fait, les gens, il y avait vraiment des retours comme je disais, de gens qui me disaient vraiment qu'ils l'attendaient tous les jours cette petite chronique, etc. Donc je voyais bien que ça avait aussi de la résonance chez les autres. Moi ça m'importait l'écrire, mais je voyais bien que les gens, il y avait quelque chose aussi chez eux qui était sensible à ça. Donc petit à petit, je m'étais dit pourquoi pas, parce qu'en fait, c'est souvent les gens qui me proposaient, qui me disaient mais tu devrais peut-être écrire, etc. Mais en fait, tant que j'avançais, j'avais pas d'idée parce que je ne savais pas concrètement, l'histoire n'était pas finie, donc je savais pas s'il y avait la matière pour ça. Et le moment où je décide qu'il y aura un livre, c'est au moment justement où je suis au kilomètre zéro avec Nao et Anna. Le moment est tellement fort, tellement incroyable, que j'ai souvenir de me dire mais oui, il y aura un livre, et il s'appellera pourquoi pas. Et alors ça, parce qu'en fait c'était l'expression de Nao, c'était quelque chose qu'il disait toujours, pourquoi pas, il me dit si tu veux on va se boire une bière ou un café, pourquoi pas, et voilà, il me disait toujours ça et je trouvais ça génial, et à ce moment là quand il était avec moi, on était tous les deux mais vraiment à éclater de rire comme des gamins, parce que lui il avait ressenti l'intensité du moment pour moi, il était vraiment joyeux pour moi, et on rigolait vraiment comme deux baleines. Et je dis, mais je vais créer un livre, hein, puis ça s'appellera Pourquoi pas. Et j'ai eu la certitude à ce moment-là qu'en effet, il y aura un livre. Et alors, à mon retour, j'ai laissé passer un petit peu de temps pour digérer un petit peu ce moment, et puis voir un petit peu ce que ça donnait. Et puis peut-être 2 mois après, j'ai décidé de reprendre en fait toutes mes chroniques, et puis de remettre tout en ordre pour proposer ce livre. Ça m'a surtout permis, en fait... de travailler justement, je parle aussi dans le livre des croyances qu'on peut avoir sur soi. Moi, j'avais une croyance qui était très forte, c'est « je suis scientifique, pas littéraire », comme j'ai fait une carrière d'informaticien, mathématicien. J'adore lire, mais en fait, je me limitais, je me disais « oui, c'est bien, mais vu que tu es scientifique, littéraire, c'est pas forcément là où tu es doué. » Du coup, ce livre m'a permis justement de faire exploser cette croyance, de voir que si, en effet, si... si on est passionné par quelque chose et qu'on aime, on trouve toujours les ressources, voilà, pour exprimer. D'autant plus que je n'ai pas l'impression d'écrire tout seul. J'ai vraiment ce côté inspiration, je le ressens très profondément. C'est quelque chose qui descend à des moments donnés. Honnêtement, il y a des fois, je suis surpris de relire des fois des choses que j'ai écrites où il y a vraiment un côté, mais est-ce bien moi qui ai écrit ça ou... Et qui vraiment, des fois, m'avait vraiment une fierté à dire « Ah, mais c'est bien écrit ça quand même !» Comme si c'était vraiment un autre qui avait écrit, ça c'est très étonnant. Et donc ça m'a permis aussi d'accomplir ce désir que j'avais en moi, d'aller jusqu'au bout d'écrire un livre. J'ai vu que ça pouvait être justement compliqué. Je crois pas qu'il y ait un écrivain qui écrive d'un trait et qui va jusqu'au bout et qui propose son livre. C'est vraiment un travail qui peut des fois même être assez pénible, qui amène de la souffrance parce qu'on va chercher des choses en soi. Les mots viennent pas toujours. On lutte contre certaines choses. Voilà, ça peut être laborieux. Mais en même temps, c'est très joyeux aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés quand ça vient et qu'on arrive à trouver le bon ton pour raconter ce qu'on avait envie de dire. Et qu'après, on voit que ça résonne chez les gens, bah c'est un vrai bonheur. Donc là, j'ai eu vraiment beaucoup de joie à pouvoir prendre quelques mois comme ça où j'essaie de m'isoler un petit peu justement pour travailler là-dessus. J'ai profité en fait de l'automne et de l'hiver en 2018, qui est, je trouve, une période propice justement pour ce type de travail, pour rentrer en soi. Et donc j'ai été accompagné par un ami qui est très proche et qui m'a permis, Sébastien, de faire le travail de relecture et de me pousser. J'ai eu d'autres personnes aussi qui m'ont vraiment lu, particulièrement d'aller chercher en moi des fois où j'étais peut-être satisfait de ce que j'avais écrit, mais lui, il allait me challenger un peu, en me disant oh, mais ça je comprends pas, ça peut-être tu pourrais développer. Et c'était important aussi, ça m'a permis vraiment d'aller creuser au fond pour sortir vraiment ce que j'avais envie de sortir.
Est-ce que c'est comme si c'est quelque chose qui se terminait? On parle d'un chemin, est-ce que c'est comme si la boucle se bouclait avec ce livre qui sort?
Oui, d'une certaine façon. Et puis surtout, ça ouvre d'autres choses. Enfin, là, je sens en plus, là, c'est l'occasion aussi de transmettre. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, voilà, modestement, j'essaie de transmettre à d'autres gens. Parce qu'en fait, moi, si je suis parti sur le chemin, c'est aussi parce que j'ai reçu d'autres personnes. Il y a des livres qui m'ont inspiré. Notamment, je sais que j'ai en tête le dernier Compostelle, comme je disais, je l'avais déjà depuis longtemps en tête. Et Jean-Christophe Ruffin, Immortelle Randonnée. Il est venu à un moment donné où en le relisant ce livre à lui, son livre à lui, là je dis non mais là il faut vraiment que j'y aille. Je vois bien ce qui se passe, la joie qu'il peut y avoir. Et ça a été le dernier déclic qui m'a fait dire là il faut y aller quand même. Et donc je sais l'importance que peut avoir des témoignages. Donc modestement je sais que ça peut aussi impacter des gens et ça me fait plaisir de pouvoir échanger sur ça. Ça me permet aussi de rencontrer des gens, de discuter de ça. Je vois bien les ponts qu'il peut y avoir entre les personnes avec ça. Et donc moi, c'est vraiment un bonheur de pouvoir transmettre tout ça.
Quelle est la nouveauté maintenant? Vers quoi tu aimes aller là?
Et ben en fait, après, c'est ça. C'est-à-dire que quand je suis revenu, j'étais reparti un peu dans ce mode où j'avais quand même beaucoup de liberté. Et puis après, à un moment donné, la vie m'a amené... Alors c'était un petit peu brutal, on va dire, j'entrerai pas forcément les détails, mais une histoire qui s'est terminée et la vie m'a fait comprendre qu'il était temps pour moi vraiment de me remettre en mouvement et d'essayer de trouver cette voie, la voie qui devait suivre et qu'en fait peut-être je repoussais parce que ça me paraissait tellement vaste le monde, toutes les possibilités que je pouvais avoir, en me demandant quels pourraient être mes talents, quelles pourraient être mes envies. Il y avait tellement de choix que du coup j'étais un peu perdu. Mais en fait ce que j'avais oublié, pourtant je l'ai su sur le chemin, mais il a fallu que ça me revienne, c'est qu'en fait quand on sait pas, il faut demander. Demander de l'aide, je me suis construit en me débrouillant tout seul et je me rends compte de plus en plus qu'en demandant, en posant des intentions, il y a vraiment de l'aide qui vient. Donc quand j'ai eu un moment donné en fin d'année qui était un peu difficile, j'ai demandé en fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi ma voie? Il y avait une voie qui était assez tracée, enfin qui était déjà cadrée, c'était plutôt dans une voie de thérapeute, c'était quelque chose, je voyais bien que j'avais envie de contribuer pour les autres. Il suffisait juste de trouver en fait le domaine dans lequel je pourrais exercer. Et voilà, au fil des rencontres, des gens que j'ai vus, ce qui m'est apparu et que j'avais envie de travailler, c'était la réflexologie plantaire, travailler par le corps. Et moi qui ai longtemps été coupé justement du ressenti à mon corps, je vois que plus le temps passe, plus j'ai vraiment envie de me réapproprier mon corps et de voir, puisqu'en fait c'est quand même le corps, je le vois chez moi, c'est vraiment un... le véhicule qui me permet de recevoir énormément d'informations sur moi-même. C'est-à-dire que quand j'ai des douleurs, des difficultés, des choses, mon corps ne me ment jamais. Il me donne des informations et libre à moi de les écouter ou pas et d'en faire. Mais je vois que c'est là, c'est ce corps qui m'a porté en plus là pendant tant de temps, etc. Peut-être des fois où qu'on peut négliger, enfin que je peux négliger. Et ben voilà, du coup, j'ai vraiment envie de travailler dans un mode où. Ben voilà, je vais peut-être pouvoir apporter du réconfort au niveau du corps et apprendre à communiquer avec lui, avec mon corps, avec le corps de l'autre. Et donc voilà, cette voie se propose. Donc je suis en formation à l'heure actuelle en réflexologie et ça, ça me fait beaucoup de joie. Donc je sais que j'ai choisi ma voie. J'ai trouvé ma bonne voie. C'est-à-dire que pour moi, c'est mon aiguillon. Ma boussole maintenant, c'est ça, c'est la joie. Si j'ai de la joie dans ce que je fais, c'est que je suis sur le bon chemin. Et si j'en ai pas, bah, c'est qu'il faut que je trouve autre chose. Là, j'en ai, donc je continue.
Vous venez d'entendre Sébastien Solo sur Radio Grand Ciel, avec lequel nous avons parcouru l'itinérance de la course à la réussite à celle du trailer, de la marche du pèlerin au cheminement intérieur, en passant par les chemins de traverse de l'écriture jusqu'à la découverte de la réflexologie. Le chemin est bordé de surprises et de rencontres. Je remercie chaleureusement Sébastien de m'avoir accordé cette interview qui a mis du temps à se construire en émission, à se traduire en ondes. Le chemin est en effet plein de surprises. Je remercie encore Radio Grand Ciel de nous permettre de diffuser ces itinéraires de vie. Vous retrouverez cette émission sur le site de Radio Grand Ciel pour la réécouter et la partager. Et à très bientôt.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Ah, oh, quelle est belle notre chance. Les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre.